dû à différents facteurs qui impliquent la volonté politique, des crises économiques aussi. Ça fait que la question du droit à l'éducation des enfants est souvent ignorée ou en tout cas pas assez respectée, notamment pour ce qui est des enfants qui sont dans des situations de vulnérabilité ou de précarité et qui donc se retrouvent souvent exclus ou en rupture avec les systèmes scolaires.
Alors donc la réunion va insister sur notamment deux sujets, celui des enfants en contexte familial fragilisé ou celui des enfants en situation de rue. Alors ce sont deux situations qui concernent particulièrement les pays européens. Alors dans ces deux situations, à qui la faute ?
Alors évidemment, la responsabilité revient aux États qui, du fait qu'ils ont ratifié plusieurs instruments internationaux qui consacrent les droits à l'éducation pour les enfants, notamment pour l'école primaire, mais également au niveau progressivement pour l'école secondaire, sont effectivement les premiers responsables à mettre en œuvre des normes qui eux-mêmes ont ratifiées. Donc il y a toute la question de la justiciabilité et de l'accès au droit à l'éducation. Mais évidemment, nous savons bien qu'en traitant la question notamment de la fragilisation des familles, les parents, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, ont quand même une responsabilité aussi à tout faire dans la mesure de leur capacité pour que leurs enfants puissent accéder à un système éducatif qui leur permette après de grandir, de se développer en tant que personne humaine. Nous avons aussi une responsabilité de tout œuvrer pour que le droit à l'éducation soit assuré pour les enfants, mais également nous l'entendons comme un apprentissage tout au long de la vie. Et donc, notamment en parlant d'enfants des rues, d'enfants en situation de migration, ce sont des enfants qui souvent n'ont pas la maîtrise de la lecture, de la mathématiques, de la langue, mais qui acquièrent quand même d'autres compétences dans leur parcours souvent si difficile et qui doivent quand même être aussi reconnus.
Alors, donc, vous avez parlé des États et du système scolaire. Alors, concrètement, qu'y a-t-il à réformer dans le système scolaire pour ces deux situations d'enfants en situation de rue et enfants en contexte familial fragilisé?
Pour nous, il y a essentiellement deux points. Un, c'est prêter beaucoup plus attention à la question de la formation des formateurs, parce que effectivement, l'actualité, les temps ont changé, on voit qu'il y a mixité dans les classes, et donc les formateurs souvent n'arrivent pas à se tenir au pas avec les temps. Et pour cela, les frères Lorenzo Tebar, des frères des écoles chrétiennes, étudient, approfondissent cette question, notamment ce qu'il lui appelle une pédagogie à visage humain, et donc qu'il insistera beaucoup sur l'aspect de la formation de formateurs qui nous paraît vraiment essentiel. Et deuxième point aussi, c'est également reconnaître toute l'importance à l'éducation formelle, cela va de soi, mais également valoriser l'éducation informelle qui contribue quand même au développement de la personne humaine, de ses enfants dans des situations de vulnérabilité.
Alors donc vous avez évoqué donc la pédagogie à visage humain. Est-ce que cela veut dire que en ce moment, le fonctionnement est trop institutionnel, qu'on a oublié le relationnel qui doit s'établir entre le professeur et l'enfant?
C'est une préoccupation majeure, que ce soit dans nos sociétés occidentales, mais également en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est vraiment comment aller au-delà de ce qui sont, qui est très important, je le répète encore une fois, mais une didactique, si vous voulez, un peu froide, hein, mais avoir cette relation de l'éducateur avec l'enfant et avec ses parents également. Ou dans les cas où les parents, par exemple, émigrent avec les grands-parents, des proches. Donc ça demande une formation continue aussi pour les formateurs.
Alors, quelle sera la portée de cette réunion sur l'éducation des enfants en difficulté?
C'est un congrès qui se prépare, comme je vous disais, avec des groupes espèrent les terrains depuis une année. C'est après de effectivement lancer un travail en partenariat encore plus étroit avec les membres du BICE, notamment avec les congrégations religieuses, l'Église, qui ont vraiment cette présence capillaire sur les terrains pour développer encore plus et approfondir les bonnes pratiques que nous avons reçues. Également, comment on peut faire un plaidoyer, et ça c'est une préoccupation majeure aussi pour nous les BICE qui avons les statuts auprès des Nations Unies, comment faire un plaidoyer efficace auprès de gouvernements, donc des autorités publiques qui, au fond, allouent des budgets, décident des politiques éducatives, Et donc, nous pensons que les conclusions de ce congrès, qui donc se terminera mercredi avec un document, avec une série de recommandations adressées à différents acteurs, nous servira au fond, si vous voulez, de pistes d'action, donnera des lignes d'orientation pour notre travail, tant au niveau de bonnes pratiques qu'au niveau du terrain, pour mettre en valeur déjà ce qui se fait et pour nous inciter à renforcer notre plaidoyer international. Ce qui me paraît essentiel, c'est, je pense, vraiment la valeur ajoutée de ce congrès, c'est ces liens, ces ponts que nous avons réussi à faire entre l'international, les experts universitaires et les terrains. Donc l'effet que vraiment ces trois mondes qui parfois se croisent, hein, mais souvent ne se retrouvent pas ensemble, là ils sont bien représentés, que ce soit par les documents, par les exposés, par les travaux, comme je disais, que nous continuerons à faire. Et on voit la richesse effectivement de l'apport des uns aux autres et de comment on peut commencer à construire des passerelles, des mutualisations de savoirs, d'échanges de compétences. Ça, je crois que c'est vraiment un point très fort de ce congrès que nous aimerons vraiment bien mettre en avant.